France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Maintenant est le temps de la paix, c'est avec ces mots que Trump a terminé son intervention ce week-end, celle qui annonçait que les États-Unis avaient frappé l'Iran. Il faudra donc attendre encore un moment. On a appris il y a un quart d'heure seulement que l'Iran avait répondu en visant la très grande base américaine de Doha, la plus grande au Moyen-Orient. On sait qu'elle n'a pas été touchée, vraisemblablement, c'est ce que dit le Qatar. Les tirs ont été entendus au-dessus de Doha, ça c'est sûr. D'autres tirs, vraisemblablement, du côté des bases de l'Irak. Le président américain, qui est entré dans un train en marche, entend imposer la paix en même temps qu'il risque une escalade majeure. Tout cela peut sembler parfaitement contradictoire et surtout, on le voit ce soir, bien fragile. Il ouvre lui aussi un autre chapitre dans cette nouvelle guerre ou plutôt prolongement de la précédente, celle entamée le 7 octobre qui depuis est passée par le Liban, passée aussi par la Syrie. Trump, on verra ensemble si c'est comme ça qu'il veut l'interpréter, entend mettre sa patte dans la refonte du Moyen-Orient proclamée par Benjamin Netanyahou et ce faisant donc, il bombarde l'Iran avec les conséquences que l'on sait. Ce qu'aucun président américain n'avait jamais osé faire avant lui, de peur, justement, de l'engrenage. Peut-on imaginer que l'intervention des fameux GBU-57 américains ont été le coup de grâce pour l'Iran? C'est ce qu'espérait Donald Trump. Ou le début d'une incertitude majeure? On en est là et ça va très vite. Rien n'est facile à lire sans le risque de se tromper. Ce qui est visible en tout cas, c'est que du côté d'Israël et de Netanyahou, l'adhésion de la population à cette guerre est plutôt large. Cette occasion a manqué depuis l'écrasement du Hamas, du Hezbollah et aussi l'effondrement de la Syrie. On le voit en tout cas dans ce que dit l'opinion israélienne. La question qui reste en suspens et qui décidément est toujours posée, rarement anticipée, jusqu'à quand ? Israël a frappé plus fort aujourd'hui, y compris vers la prison des vins. Et bien sûr, nous y reviendrons. L'Iran a donc répondu aux Américains. Le renversement du pouvoir iranien semble toujours un but de guerre ou un risque plus grand en fonction de celui qui prendra ou de ceux qui prendront les rênes. Encore une fois, il y a plus de questions que de réponses, et c'est pas fini. Essayons au moins avec les questions. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Philippe, le premier, c'est vous, et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci pour votre émission. Oui, bonsoir. Ma question est simple, c'est quelle est la position des pays du Moyen-Orient sur ce conflit? Parce qu'on entend beaucoup les États-Unis, la Chine, les Européens, la Russie, mais... les pays du Golfe, comment ils voient ce conflit et cette déstabilisation importante du Moyen-Orient?
Eh bien, peut-être qu'ils vont commencer à le dire maintenant de manière beaucoup plus précise. Philippe, merci beaucoup pour votre intervention et pour votre question. Pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de la table, il y a Shirin Ardakhani. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, fondatrice et présidente de l'association Iran Justice. Vous êtes aussi l'avocate de Cécile Kohler, qui est détenue depuis 3 ans avec son compagnon Jacques Paris. Nous y viendrons. Bonsoir Pierre Aski.
Bonsoir.
Chroniqueur géopolitique, évidemment, à France Inter. Nous rejoindrons Denis Charbi, qui est professeur de sciences politiques à l'Open Université d'Israël à Tel Aviv. On le rejoindra dans un petit instant. C'est vers vous que je me tourne d'abord, Pierre Aski. Jusqu'à présent, effectivement, gros silence des pays du Golfe. Est-ce que ce qui s'est passé il y a un quart d'heure là, donc la réponse iranienne sur les bases américaines, est de nature à faire répondre les pays du Golfe ou pas?
Alors, ils ont été très discrets, effectivement. Il y a eu des communiqués extrêmement prudents. Le seul pays qui n'a pas condamné l'attaque israélienne, c'est la Syrie. Mmh. C'est ce qui a été relevé et ce qui est très intéressant. Évidemment, ça change la donne aujourd'hui, puisqu'ils se retrouvent eux-mêmes cibles, ce qu'ils espéraient éviter. Ils sont dans une situation très compliquée, parce qu'ils étaient... pour une défense face à l'Iran il y a quelques années. Ils ont changé de position ces dernières années. On se souvient que l'Iran et l'Arabie Saoudite ont renoué des relations diplomatiques. Mmh. D'ailleurs, c'était sous l'égide de la Chine. Et récemment, lors de la tournée de Donald Trump dans le Golfe, la tonalité était plutôt celle de « pas de guerre ». En tout cas, on voit bien que ces pays, l'Arabie Saoudite ou les Émirats ou le Qatar, ont changé le modèle économique. Ils veulent miser sur l'intelligence artificielle, sur le tourisme, etc. Donc, ils ne sont pas dans une logique d'affrontement. Et aujourd'hui, ils sont avalés, je dirais, dans la spirale de cet engrenage guerrier dont on ne sait pas où il s'arrêtera.
Le Qatar a dénoncé, c'est à l'instant, l'attaque de missiles iraniens visant une base américaine sur son territoire en la qualifiant de violation flagrante de sa souveraineté. souveraineté. Est-ce que on parle toujours de peur d'engrenage, Pieraski, dans ce genre de situation? Est-ce que la peur de l'engrenage, là, on l'a sous les yeux, elle est en train de se produire en même temps qu'on se parle ou pas?
Oui, parce que lorsque les frappes ont commencé, la question c'était, est-ce que les Américains vont rejoindre? Les Américains ont rejoint. Lorsque les Américains ont rejoint, c'est dit, bon, ça s'arrête ou ça continue, c'est quitte ou double. Et on voit que là, aujourd'hui, on est passé doublement à la vitesse supérieure, à la fois du côté israélien dans le type de cible et l'ampleur des frappes de la matinée, et là, avec la riposte iranienne, qui était attendu d'une manière ou d'une autre.
Mais est-ce que ça veut dire, et je ne vous ai pas oublié, Shirin Arkadiedi, je vous promets, est-ce que ça veut dire que tout dépend là de la surréponse de Donald Trump, en fait? S'il considère effectivement que les missiles ont été arrêtés, on s'arrête là, les uns les autres, parce que chacun sait ce que c'est que cette escalade-là, ou alors on ne sait pas où on va.
Donald Trump ne veut pas d'un engrenage qui va l'obliger à aller toujours plus loin. C'est le piège qu'il a dénoncé lui-même depuis 10 ans qu'il fait de la politique. Donc il peut tout à fait, et il l'a déjà fait par le passé, à partir du moment où il n'y a pas de victimes, il n'y aura pas de soldats tués, en tout cas pas à Qatar, on verra ce qui se passe en Irak, il peut très bien estimer que la riposte, que l'incident est clos et qu'on n'a pas besoin de riposter. Mais quand ça ne va pas être forcément l'avis de Benjamin Netanyahou.
Exactement. Un, l'avis de Benjamin Netanyahou, et deux, quand il dit lui, parce que c'est ce qu'il a dit lorsqu'il a annoncé ses frappes vendredi soir ou samedi, du coup j'ai oublié, moi maintenant je ne me souviens plus, vendredi soir ou samedi, l'un des deux, peu importe, quand il dit « maintenant c'est bon, on a fait ça et c'est fini », pardon Pierre, mais est-ce qu'il se met le doigt dans l'œil, en fait, en imaginant que c'est aussi simple que ça?
Oui, parce que je pense qu'il n'a aucune maîtrise des tenants et aboutissants de l'équation régionale, de ce qu'est l'Iran, de ce qu'est son régime, de ce qu'est la mentalité des gens qui sont au pouvoir en Iran. Je pense que Donald Trump a eu le sentiment, quand il a fait ça, qu'il avait fait un bon coup. Un bon coup, ça, parce qu'il est sorti de là en pouvant dire « j'ai utilisé la plus grosse bombe de l'histoire et je suis le plus fort ». C'est quand même, voilà, c'est la signature de Donald Trump depuis des années qu'on le connaît. Et je pense qu'il espérait que ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas. On verra comment il va réagir, mais il peut effectivement estimer que ça s'est quand même arrêté dans la mesure où la frappe est plus symbolique qu'autre chose. En envoyant 6 missiles sur une base protégée par des missiles patriotes, il y avait peu de chances qu'elles atteignent leur objectif.
Shirin Ardakhani, vous êtes venue ici il n'y a pas si longtemps que ça, et je me souviens de votre coup de colère sur ces deux hommes, en l'occurrence Ramanei d'un côté et Netanyahou de l'autre, qui sur le dos de leur population respective étaient en train d'entretenir cette guerre. J'imagine jusqu'à quel point aujourd'hui, non seulement parce que Israël frappe plus fort, mais aussi parce qu'il y a une réplique, j'imagine que vous êtes encore plus inquiète aujourd'hui que vous l'étiez il y a 2 jours.
Écoutez, il y a quelque chose qui a changé, c'est que Donald Trump est entré dans la danse, si je puis m'exprimer en ces termes, ce qui m'inquiète encore davantage, puisque précisément, nous disions la dernière fois que Khamenei n'est pas le défenseur du peuple iranien qu'il a massacré pendant effectivement des années et des années, qu'il n'est pas le défenseur d'ailleurs du peuple palestinien qui aujourd'hui est en train de continuer d'ailleurs à subir un sort épouvantable puisqu'on atteint des milliers et des milliers de civils tués, mais de la même façon, Netanyahou n'est pas le défenseur de l'État d'Israël ni du peuple juif, et en réalité, l'un et l'autre s'entretiennent dans cette tuerie mutuelle et entraînent le monde, en fait, dans cette tuerie-là. Et je vois, en arrivant, effectivement, que la déclaration du président Macron, et je crois qu'elle va dans le bon sens, mais j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, puisque je lis pour la première fois une condamnation des frappes israéliennes sur la prison d'Evin, avec ce mot qui avait disparu depuis 12 jours, la légalité. Alors, on n'y est pas encore tout à fait, puisqu'on ne dit pas que cette frappe est illégale, mais on dit qu'elle est en dehors de la légalité. Et voilà ce dont on a besoin, me semble-t-il.
Il y a 2 choses que dit d'ailleurs Emmanuel Macron. Il y a effectivement, s'agissant de la prison d'Evin et notamment de Cécile Kohler et de son compagnon Jacques Paris, il y a la France demande à l'Iran d'entrer en contact avec Cécile Kohler, avec Jacques Paris. Et ce qu'il dit sur un autre registre, mais ça nous intéresse aussi, Shirin Ardakhani, il dit on ne peut pas se substituer à un peuple pour obtenir des résultats. En réponse à ce que dit Israël, ce que sous-tend plus ou moins Donald Trump d'ailleurs on ne sait pas très bien où il est là-dessus. Disons, ce n'est pas comme ça que vous renverserez le régime.
Écoutez, je crois que Donald Trump, il est plutôt clair depuis ce matin quand il dit « Make Iran great again » et que c'est repris par absolument tous les partisans du régime change. Alors, cette expression est insupportable. D'ailleurs, on pourrait s'y arrêter deux minutes. Qu'est-ce que ça signifie, le régime change ? Régime change, ça veut dire des puissances étrangères qui décident du sort, alors soit tantôt d'un homme de paille ou d'un pouvoir provisoire qui soit conforme aux intérêts des uns et des autres. Voilà ce dont parle aujourd'hui Donald Trump. Je crois que sa rhétorique, il n'est arrêté par personne, sauf effectivement cette phrase intéressante d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs je crois qu'il va dans le bon sens, de dire qu'on rappelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce n'est pas à Trump, à Netanyahou, ni d'ailleurs à quiconque, de choisir qui doit prendre le pouvoir politique, à supposer même que la théocratie et la dictature iranienne tombent. Parce que là, je crois qu'on va un petit peu vite en besogne, en considérant que l'État iranien est mort, vive le roi et celui qui viendra après.
On y viendra à ça, Pierre Aski. Mais je voudrais d'abord qu'on aille faire un aller-retour aux États-Unis, justement, rejoindre Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne.
Parce
bonsoir
qu'évidemment, il y a réunion aux États-Unis en ce moment, une réunion prévue, mais j'imagine que l'ordre du jour a dû un peu changer.
Oui, évidemment, des réunions comme ça dans la salle de crise de la Maison Blanche, il y en a eu quasiment tous les jours depuis la semaine dernière avec cette escalade entre l'Iran et Israël. Il y en avait une de prévue aujourd'hui. A priori, elle a dû commencer il y a une grosse demi-heure et j'imagine effectivement tout cela ne nous est pas confirmé par la Maison Blanche, mais j'imagine qu'on surveille, qu'on monitore, comme on dit en anglais, ce qui se passe en ce moment dans le Golfe et contre les intérêts américains. Ce qui est intéressant, c'est que ces attaques iraniennes contre des intérêts américains dans la région se font d'abord symboliquement sur l'endroit où il y a le plus de soldats américains dans le Golfe, hein, la fameuse base d'Al Udeid au Qatar, qui est juste à côté de l'aéroport de Doha, le QG régional du CENTCOM, le commandement central américain, 10 000 personnes sur place, et puis que ces attaques ont été, d'après le New York Times, qui cite trois responsables iraniens, ces attaques ont été coordonné, Téhéran a prévenu Doha avant de frapper pour éviter des pertes humaines et éviter aussi une escalade. Donc on est dans une réplique. Il fallait à la fois que l'Iran symboliquement réplique aux bombardements américains de la nuit de samedi à dimanche et en même temps éviter que ça ne dégénère davantage, quoi.
Merci beaucoup Sébastien. Prévenu Doha, Pierre Aski, et en même temps là le Qatar dit se réserver le droit de répondre à l'attaque iranienne. Il y a aussi tout ce qui est du domaine du bruit en fait dans ce genre de choses.
Oui, il y a une dramaturgie permanente dans ce genre de situation. On avait même dit aussi que les Américains avaient prévenu les Iraniens avant de frapper Fordo. Donc on est dans cette guerre qui est encore à quelques précautions parce qu'on ne veut pas justement rentrer dans un engrenage automatique qui conduira à un affrontement généralisé. Maintenant, est-ce que ça va suffire ? Il faut compter quand même avec le tempérament de Donald Trump, qui peut s'estimer bafoué par la riposte iranienne et peut décider d'aller plus loin. C'est hélas la psychologie qui est un des facteurs non maîtrisables dans cette équation.
On va continuer avec lui, et grâce à vous, Julien. Bonsoir, Julien.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Allez-y.
Bonsoir, merci pour votre émission. Moi, je voulais savoir, en fait, est-ce que le fait que Trump soit passé outre le Congrès pourrait finalement faire bouger les lignes au sein du camp républicain, quand on sait qu'auprès de l'opinion publique américaine, la vie des soldats, c'est quand même peut-être une ligne rouge, et qu'on voit aussi certaines personnalités du Trumpisme, comme Tucker Carlson, qui commencent un petit peu à retourner leur veste. En gros, est-ce que les institutions américaines peuvent encore le freiner ?
Merci pour votre question, Julien. Je vais me tourner d'abord vers vous, Shirin Darkhani. Je me demande, dans cette situation-là, où au fond, en effet, c'est pas surtout sur les opinions publiques que l'on compte, celles des Américains, les nôtres, les israéliennes, les iraniennes. Est-ce que, à la fin, le dernier mot peut pas être par là ?
Si, tout à fait. Vous savez, moi aujourd'hui, c'est la mission que je me suis fixée. C'est-à-dire qu'en fait, je suis avocate, je suis censée mobiliser le droit, mais je vois bien qu'il y a là aujourd'hui une réticence généralisée à défendre cette idée, au fond, que le droit doit être le fondement de nos sociétés. Et on voit bien que l'heure est plutôt à la désagrégation, au retrait des traités internationaux, au fait de refuser le multilatéralisme. D'ailleurs, je crois que la séquence de Trump l'a bien démontré. montrer le fait de quitter un cadre multilatéral pour aller prendre sa décision seule de frapper unilatéralement, au mépris d'ailleurs de tous les traités internationaux qui évidemment excluent le fait de frapper des installations nucléaires. On a vu par la suite l'AIEA nous rassurer sur le fait qu'il n'y avait pas en définitive de risque pour les civils et de pollution radioactive, mais ce que j'ai envie de dire c'est que c'est heureux parce que s'il en avait été autrement et que c'était ex post qu'on aurait fait ces commentaires-là et qu'on avait eu, on aurait eu un Tchernobyl iranien, et bien effectivement on aurait bien été en peine de justifier que Trump ait eu les mains libres pour pouvoir procéder à ces frappes-là. Alors évidemment on compte sur les opinions, mais je crois que quelque chose est en train de se dessiner, en tout cas je le sens progressivement au bout de 12 jours de guerre. C'est au fond cette idée qu'il n'est plus entendable de ce côté-là d'entendre que finalement il y aurait des raisons supérieures au droit, que la guerre préventive est une logique tout à fait satisfaisante, qu'on est légitime à venir redessiner la carte du Moyen-Orient en imposant par exemple des dirigeants. Je crois qu'aujourd'hui il y a cette exigence, en tout cas dans ma génération, puisque c'est ce que nous avons appris sur les bancs de l'université, c'est que le droit est toujours légitime à régir les rapports dans la société, et plus particulièrement ce que nous avons construit, et je le redirai autant de fois que nécessaire, avec la Charte des Nations Unies. Et bien c'était précisément pour éviter que des civils meurent, parce qu'en 1945, quand on pense la Charte des Nations Unies et quand on pose cet article 2 qui est l'interdiction absolue de tout recours à la force hors cas de légitime défense, et cas de légitime défense, ça veut dire qu'il faut être attaqué pour pouvoir répondre, et quand on répond, et bien on répond de façon pas disproportionnée et nécessaire. Et bien quand on pose ce principe-là, c'est précisément parce que 3% de la population civile mondiale a été décimée en 1945. Et donc là, précisément, je crois que nos politiques et nous-mêmes et les opinions doivent se battre pour cette idée-là.
Un mot sur les opinions publiques, Pierre Aski, on aura Denis Charby dans un instant, on voit bien où sont les opinions publiques israéliennes pour l'instant, plutôt derrière Netanyahou, ce qui est rare hein, dans ces moments-là. L'Iran, on sait bien où ils sont aujourd'hui, mais on sait qu'il y a aussi une société civile iranienne. On entend là par nos questions, on aura Frédéric dans un instant, combien il peut y avoir une incompréhension, jusqu'à quel point on compte sur ces opinions publiques et sur les civils en fait.
Ouais, je pense que ce qui se joue aujourd'hui, c'est la bascule du monde dans le règne de la force. C'est ce qu'incarne Donald Trump, c'est ce qu'incarne Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est ce qu'incarne Xi Jinping en Chine, c'est ce qu'incarne Netanyahou, c'est ce qu'incarne tous les hommes forts, entre guillemets, de cette planète. Et hélas, le droit est en régression totale, et les opinions publiques aujourd'hui sont bien en mal de peser. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, le Congrès n'a pas été notifié par Donald Trump. Il est à l'écart, mais il est passif depuis le 20 janvier. Et je ne pense pas que ça change sur cette question, sauf s'il y a un dérapage et un engrenage militaire plus grand dans l'implication américaine.
Il peut y avoir un autre dérapage et engrenage qui parle à Trump. Là, par exemple, je lis que le cours du pétrole a chuté de 5%. Ça, ce sont des choses aussi qui parlent, hélas, j'allais dire, mais enfin, s'il faut cet argument-là, qui parle de Donald Trump. Chérine Arcadani, vous vouliez intervenir et puis on retourne au standard.
Oui, sur l'impunité, je crois qu'en tout cas, là, il y a un décalage aujourd'hui entre effectivement la façon dont Khamenei a pu procéder au massacre de civils, femmes, vie, liberté. Hein. Je rappelle, plus de 1000 personnes qui ont été massacrées dans les manifestations, mais voyez aujourd'hui le décompte là des morts civiles, rien que subissant les frappes israéliennes, on est déjà quasiment à ce décompte-là. Les ONG disent qu'on est à 800 morts civiles. Donc au fond, je ne suis pas en train de faire une équivalence et j'ai envie de dire, je pourrais en faire une de façon audacieuse en disant que le bilan en fait des Iraniens qui se sont soulevés au cri de femme, vie, liberté équivaut aujourd'hui, au bout de 12 jours de guerre, à celui qui périsse sous les bombes. Et je crois qu'il y a au fond, aussi bien en Iran mais aussi en France, cette exigence de mettre fin à l'impunité des criminels de guerre et contre l'humanité. Et ce qui est incompréhensible, c'est encore une fois que Khamenei ne soit pas visé par un mandat d'arrêt international, que Netanyahou en ait un mais qu'il n'ait jamais été appliqué, y compris d'ailleurs quand il a posé le pied sur le sol européen, et que Vladimir Poutine, de l'autre côté, envisagé un temps comme un médiateur, eh bien, est quand même quelqu'un qui, lui-même, est au même moment en train de frapper des civils en Ukraine et visé par un mandat d'arrêt international. Donc, encore une fois, je crois qu'il y a un décalage aujourd'hui entre la position qui est affichée par nos dirigeants et par nos États et l'exigence, en tout cas, qui vient des bases et des sociétés civiles à la justice internationale et que les criminels de guerre eh bien, soient jugés et poursuivis.
Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous.
Je pense que Chérine Ardakani a un peu répondu à votre question.
Tout à fait, je la remercie. Vraiment,
je suis navré, mon cher monsieur.
Parce que moi, j'étais attiré depuis quelques jours d'entendre des commentaires commentant, en fin de compte, cette agression sur l'Iran comme, disons, sur le plan technique, simplement. Alors, les mots-là ne sont pas ma tasse de thé, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'attendais, moi, qu'une voix s'élève ou que des voix s'élèvent pour dire qu'en fin de compte, les attaques d'Israël et, de M. Trump sur l'Iran étaient tout à fait illégitimes, illégales, et qu'en fin de compte, elles étaient criminelles, et qu'elle devait cesser immédiatement. Donc encore merci aux intervenants qui sont allés dans ce sens, et ma foi, si M. Macron commence à aller dans le même sens aussi, mais je dirais que c'est tant mieux, mais je dirais que c'est bien tard et bien timide.
Pour dire quoi, Pierre Aski? Parce qu'effectivement, on l'a entendu, hein, frappe sans légalité, Emmanuel Macron le dit, je crois que c'est la deuxième fois, ou la première, mais...
De façon aussi temps, catégorique, voilà, c'est la première, je crois.
On a Friedrich Merz de l'autre côté, on a suffisamment répété cette phrase qui dit Israël est en train de faire le sale boulot pour nous. La voix européenne, là-dedans...
La voix européenne a disparu, elle est méprisée par Donald Trump, qui l'a même dit officiellement. Les Européens se sont fait en plus manipuler avec cette rencontre de Genève qui avait lieu pour pousser à la diplomatie, alors que les avions étaient en train de décoller.
Le timing était d'ailleurs là pour ça, évidemment, avant la fin de la négociation avec les États-Unis et avant la proclamation potentielle d'un
État d'Israël. Voilà, donc les Européens sont... hors jeu dans cette affaire, alors qu'ils étaient autour de la table dans l'accord de 2015, puisqu'il y avait la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne et avec les États-Unis, la Chine et la Russie. Mmh. Donc le jeu a changé véritablement, le jeu mondial a changé avec Trump qui ne perçoit plus le monde en termes d'alliance, ne conçoit plus le monde en termes de multilatéralisme, mais ne mise que sur le droit à utiliser la force brutale, seule, de manière unilatérale. Je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment le cas d'école de la bascule du monde.
On est en train de parler de cette bascule du monde, justement, ou du Moyen-Orient, en tout cas, pour l'instant, j'allais dire, avec Pierre Aski, qui est chroniqueur géopolitique, évidemment, à France Inter, avec Shirin Ardakhani, qui est avocate et fondatrice présidente de l'association Iran Justice, avec Denis Charby aussi. Bonsoir, Monsieur Charby.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'Open Université d'Israël. Avant de discuter avec vous, Denis Charby, vous allez écouter la question ou la remarque de Baïja, qui est directement tournée vers Israël. On vous écoute, Baïja. Bonsoir, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir. Bonsoir, Fabienne Saint-Est. Merci pour la qualité de vos émissions. C'est extraordinaire de vous écouter chaque soir. Super. Merci beaucoup. Ma question, alors, je ne me permettrai pas de faire de la géopolitique, mais pour autant, là, je viens encore d'entendre les remarques de M. Pierre Aski, qui me font penser à deux questions qui me viennent à l'esprit, à savoir que je reprendrai la phrase du chancelier pour dire que Netanyahou est en train de faire le sale boulot. Mais du coup, ce sale boulot, est-ce qu'il est vraiment dans l'intérêt du monde entier et pas seulement des Européens? Parce que les Européens, avec leur pudeur de gazelle, de se dire c'est légal, c'est illégal, c'est légal, c'est illégal, pendant ce temps-là, Netanyahou a manipulé, et c'est là-dessus que j'aimerais bien entendre vos intervenants, a manipulé Donald Trump pour amener à ce qu'il y ait des dégâts aujourd'hui pas encore humain, même si on a noté mille morts. Oui, voilà, c'est ça. Plus de 1000 morts du côté iranien. Mais le fait d'avoir lâché ces bombes, et c'est là où je m'étonne que personne n'intervienne sur ce plan-là, le fait d'avoir que les Américains lâché ces bombes au cœur de la Terre, quelles vont être les conséquences écologiques pour le monde entier? Aujourd'hui, l'ennemi du monde entier, est-ce Khamenei ou Netanyahou?
Eh ben, alors, je ne sais pas si l'argument écologique au milieu tient, mais on a entendu, Baïja, on a entendu ce que vous disiez. Denis Charby, moi, la question que j'ai envie de vous poser au regard de cette question, c'est est-ce que c'est Trump qui dit à Netanyahou, vous ne pouvez pas faire sans moi et vous n'avez pas le choix? Est-ce que c'est Benjamin Netanyahou qui dit à Trump, je vous tiens par le bout du nez et vous ferez ce que moi je décide? Ça marche dans quel sens, cette affaire?
Alors, si on regarde le scénario tel qu'il s'est révélé jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que Netanyahou a parié, il a parié gros, mais il connaissait bien Trump et il a estimé que si l'opération militaire initiale réussit parfaitement, et ça a été le cas, à ce moment-là, il sera plus difficile pour Trump de reculer, de ne pas y aller. Je ne crois pas que qui que ce soit manipule qui que ce soit. Je crois qu'il y a des calculs, il y a des évaluations. Ça peut tomber dans un sens, ça peut tomber dans l'autre. Et il est vrai que l'addition d'un Trump qui était resté évasif sur une éventuelle intervention, il a multiplié les déclarations dans les deux sens. Mais une fois l'opération israélienne réussie, Trump a eu le sentiment qu'il lui fallait en quelque sorte donner le coup de grâce et c'est terminé. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement il répondra présent à d'autres interventions s'il est sollicité par le même Netanyahou. Vous savez, c'est un jeu qui n'est pas déterminé à l'avance. C'est de ce point de vue-là, c'est pas, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme, il y a des appréciations, des évaluations. Netanyahou aurait pu, s'il avait manqué son pari, s'il avait perdu son pari, aujourd'hui serait non seulement détesté par ceux qui de toute façon le détestent, mais également par la population israélienne qui aurait dit « Ah, votre rationalité a été prise en défaut ». Elle ne l'a pas été à ce jour. Alors bien sûr, on est dans la guerre, ça fait des morts, et bien sûr, c'est toujours une situation qu'on voudrait pouvoir arrêter le plus vite possible.
Et la population israélienne dont vous parliez, Denis Charby, Israël est touchée de près dans cette guerre, puisque la population doit se regrouper dans les abris, mais pour autant, semble-t-il, la population est toujours derrière Benjamin Netanyahou, peut-être en disant écoutez, on s'engueulera plus tard sur d'autres choses, mais cette guerre est finalement une bonne idée, je ferme évidemment les guillemets, est-ce que, ou en tout cas il y avait une fenêtre d'opportunité, est-ce que la crainte d'un embrasement après ce qui se passe aujourd'hui peut changer un peu cette donne-là, ou pas du tout, là-dessus, la population israélienne est derrière son Premier ministre?
Alors, bien sûr qu'elle est derrière le Premier ministre, toutes tendances politiques confondues. Il y a une petite minorité de gens qui protestent, qui estiment qu'il fallait donner une chance à la négociation. Je dirais ceci, bien sûr que cette population, pour la plupart, elle n'est pas entre les mains de Netanyahou. Ça peut basculer si demain ça tourne mal. Actuellement, les Israéliens, en dépit de ce qu'ils subissent, n'ont pas le sentiment que dans le rapport entre les risques calculés et les dangers encourus, n'ont pas le sentiment qu'ils y ont perdu. Mais il faut quand même comprendre aussi une chose qui n'a peut-être pas été clarifiée jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on fait quand un pays développe un armement nucléaire, s'apprête à faire une bombe? Qu'est-ce que dit le droit international dans ce cas-là? Il dit « faites un accord ». Israël ne croit pas aux bonnes intentions de l'Iran. C'est Israël qu'il faut convaincre dans ce cas-là. Et personne ne doute. Et là aussi, par rapport aux critiques qu'on fait de l'Europe, l'Europe est tiraillée parce que d'un côté, bien sûr qu'elle est fidèle à ce principe en vertu duquel on n'attaque pas les premiers, mais il est clair également qu'entre l'Iran et Israël, même de Netanyahou, il est clair que l'Europe ne peut pas ne pas être à côté d'Israël, tout en souhaitant bien sûr que ça se termine rapidement, tout en souhaitant ensuite que la question de Gaza soit résolue dans un sens qui soit conforme au droit international, mais dans l'équation stratégique, il est inconcevable que l'Europe dise « bah, vous voulez développer un programme nucléaire, on essaye de le contrôler, mais on n'y arrive pas trop ». Et ça, des programmes de ce type, parfois, malheureusement, si c'est par la négociation, tant mieux. Il semblerait que par la négociation, l'Iran de Khamenei aurait toujours cherché à biaiser, aurait toujours cherché à ça. Et qui aurait payé l'addition? C'est Israël. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une conjoncture qui a permis à Israël de mettre le pas dans la porte et effectivement, dans des conditions relativement fortes et sûres, de frapper.
Pas dans la porte, comme vous dites. Denis Charby, restez avec nous. Je voudrais juste qu'on embraye un peu là-dessus, Pierre Aski. On n'oublie pas non plus qu'il y a eu un accord en 2015, que l'accord a été dénoncé par les États-Unis en 2018, que Alors certes, c'est vrai, l'Iran enrichissait l'uranium, il n'y a aucun doute là-dessus, sauf entre 2015 et 2018. On ne va pas refaire l'histoire, mais ça donne quand même à réfléchir.
Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier cet épisode quand même, parce que Benjamin Netanyahou avait tout fait pour empêcher cet accord auprès de il a essayé de faire pression sur Barack Obama, qui était président aux États-Unis à l'époque, et c'est Donald Trump en 2018 qui a dénoncé cet accord. Et en fait... on peut réécrire l'histoire en se demandant où on en serait aujourd'hui si l'accord avait été préservé. L'accord était sur une période de 10 ans. Mmh. Et aujourd'hui, on est à l'expiration de ces 10 ans, pendant lesquels, en tout cas pendant les 3 premières années, l'Iran a respecté sa part du contrat. Alors on peut dire, oui, ce sont des filous qui chercheront par tous les moyens à le contourner, mais il se trouve qu'il y a eu cet accord. Et là où il y a quand même quelque chose qui s'est passé qui est pour le moins anormal, c'est que il devait y avoir une nouvelle rencontre au Sultanat d'Oman entre les Américains et les Iraniens.
C'était dimanche.
Et que les Israéliens ont bombardé 2 jours avant. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la mécanique à la fois diplomatique et militaire de la gestion de cette affaire iranienne.
Après, j'ai toujours le sentiment, moi, mais vous m'arrêterez si je me trompe, Shirin Ardakhani, c'est pareil au fond à Gaza, c'est pareil dans tellement d'endroits. La fin, c'est où ? On a entendu Benjamin Netanyahou dire « Ah ben, c'est le changement de régime », on n'est plus très sûr que c'est le changement de régime ou pas. C'est quand le programme nucléaire sera définitivement détruit. Alors on entend Trump dire « Oui, oui, on l'a détruit ce programme nucléaire, mais de fait, on n'en sait rien. » On se pose même des questions de savoir où sont les fameux 400 kilos d'uranium enrichi. On ne sait même pas s'ils ne sont pas partis par des camions. Enfin, on entend tout et son contraire. Pardon de vous demander ça à vous, mais ça s'arrête quand ? Et ça doit s'arrêter comment, en fait ?
Écoutez, moi, je vais vous dire, le problème, c'est plutôt comment ça a commencé. Parce que, vous voyez, c'est bien ça, le principe de l'interdiction absolue de tout recours à la force hors cas de légitime défense, c'est précisément pour pas aller sur la rhétorique des objectifs affichés de guerre. Parce que, vous voyez, quand je lis tout à l'heure la dépêche AFP du président Emmanuel Macron, ce qu'il explique, c'est que les frappes sur Evin n'ont rien à voir avec les objectifs de guerre affichés par l'État d'Israël. Mais voyez-vous, la difficulté, c'est justement quand on prend au mot les belligérants sur leurs objectifs de guerre affichés, et donc même pas en plus avérés, c'est-à-dire sur la base d'éléments tangibles, parce que qu'est-ce que nous disait au début Netanyahou ? Il nous disait qu'il faisait cette guerre pour 2 raisons. Alors la deuxième, c'était pas tout à fait clair, mais en tout cas la première, c'était de dire au fond, il y a une menace existentielle qui pèse depuis que les Iraniens sont arrivés au pouvoir en 79, parce que c'est un État, et là nous sommes d'accord, Khamenei, son État est structurellement antisémite, mort à Israël, mort aux États-Unis, de toute façon, depuis 79, c'est la rhétorique du guide. Mais néanmoins, sur l'élément de véracité, qui est au fond celui qui nous rappelle l'Irak, est-ce que, oui ou non, l'Iran a dépassé ce fameux seuil d'enrichissement, oui ou non, et surtout, jusqu'à, enfin, quand est-ce qu'il pourrait se doter de l'arme nucléaire ? Et c'est ça, au fond. Et aujourd'hui, moi, je n'ai toujours pas la réponse sur le fait de savoir si ce premier objectif de guerre affiché était en réalité véritablement celui-là. Et puis alors, quant au second, qui est le régime tchèque, qui n'était même pas au départ affiché au départ, eh bien, on voit bien que bah, tant que tout le monde n'est pas mort, que toutes les infrastructures n'ont pas été décimées et qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement transitoire démocratique, ça pourrait durer des mois et des mois, voire même des années.
Est-ce qu'on se pose la question, pardon de vous demander de répondre rapidement, Denis Charby, qu'est-ce qu'on dit en Israël ? Est-ce qu'on pense vraiment qu'un changement de régime est aux portes de l'Iran aujourd'hui et que c'est ça le but de guerre ? Il y a ce qu'affiche Netanyahou, et puis qu'est-ce qu'en pensent les Israéliens selon vous ?
Alors très rapidement, c'est pas un but de guerre, mais il est incontestable que c'est ça que les Israéliens préféraient. D'abord pour le bien des Iraniens, et puis deuxièmement parce qu'effectivement un régime qui ne serait pas un régime islamique permettrait d'avoir une négociation avec Israël sur de meilleures bases. Donc à cet égard, on ne pense pas en Israël que des frappes aériennes suffisent pour faire tomber un régime. Regardez le cas de l'Irak, c'est une fois la direction à terre, qu'à ce moment-là, le peuple se soulève. En plus, on ne peut pas demander aujourd'hui aux Iraniens de se soulever lorsqu'ils doivent se protéger des bombardements israéliens. Il faut le dire objectivement, tout le monde en Israël le comprend. Après, ce sera aux Iraniens. Bien sûr qu'on rêve tous que des régimes de ce type tombent d'eux-mêmes. Voilà. L'Union soviétique, 89, c'est formidable parce qu'ils ont fait ça tout seuls sans qu'on ait besoin d'intervenir militairement. Mais l'histoire, parfois, ne se fait pas comme cela. Mais du point de vue israélien, il faut bien comprendre, c'est la menace nucléaire qui est le premier objectif. C'était le même qui a conduit Israël en 1980 à éliminer la puissance nucléaire irakienne. C'est la même raison d'État qui a conduit Ehud Olmert, qui est pourtant un centriste, de bombarder les centrales nucléaires en Syrie. Il faut comprendre, au Moyen-Orient, les Israéliens ne laisseront pas une puissance développer une capacité nucléaire. Point barre.
Merci beaucoup, Denis Charbit-Pierre. Est-ce qu'on a une toute dernière question de Pierre qui dit « A-t-on réfléchi à ce qui se passerait si le régime des Mollahs chute ? Ne partons pas sur une redite de l'Irak 2003 et du chaos qui a suivi. » Je voudrais, pardon, il nous reste peu de temps, mais rajouter une petite mezzanine à cette question. Et c'est plutôt à vous que j'ai envie de la poser plutôt qu'à Denis Charbit. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au moment où on se parle, et même si le régime tombait, qu'Israël serait plus en sécurité aujourd'hui ?
Je pense que l'expérience, en tout cas, montre plutôt le contraire. Et que du chaos irakien est né Daesh et l'État islamique, dont on a vu d'ailleurs hier qu'il a de nouveau sévi au centre de Damas dans une église. Donc on est encore dans les répliques des conséquences de la chute du régime irakien de cette manière. Non, je pense que le rêve de voir un Iran démocratique, laïque et apaisé sortir d'un chaos que serait la chute du régime dans la guerre est absolument irréaliste aujourd'hui.
Bertrand Badi parlait de la chaotisation des voisins. Est-ce qu'on est, je vois Shirin Ardakani qui fait oui avec la tête, est-ce que c'est là qu'on va en fait la chaotisation effectivement des voisins? C'est ce qu'on a vu en Irak effectivement
de la fin de 2003. Et en Libye en 2011 après la mort de Kadhafi.
Allez, je vous le dis parce que quelques alertes sont tombées. Pas de victimes dans l'attaque iranienne contre la base américaine au Qatar. Et c'est le Qatar qui le dit. Le Bahreïn, pendant ce temps, a évidemment annoncé la suspension temporaire de son espace aérien par mesure de précaution, ainsi que le Koweït, donc tous les pays qui bordent le golfe Persique, évidemment, et l'ensemble du golfe a pour l'instant fermé son espace aérien. Je vous remercie chaleureusement tous les deux, tous les trois, avec Denis Charbit qui était en Israël avec nous. À tout de suite.